Au micro, Idrissa Seydoudia. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique. 160 morts, le dernier bilan de l'attaque la plus meurtrière menée depuis 6 ans au Burkina Faso par des djihadistes présumés. C'était dans la nuit de vendredi à samedi à Solan, commune rurale du nord-est de ce pays en proie, comme ses voisins sahéliens, aux violences djihadistes. Michel Joseph y reviendra dans quelques instants. Au Mali, le colonel Assimi Goïta doit être officiellement investi ce lundi, président de la transition. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, nous en parlera. Cette fois, ce sont ses rivaux mêmes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui le disent. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, est mort en se suicidant lors de combats contre ces derniers. Ce sera avec Abdourahman Dia. Nigeria toujours, la police a annoncé hier 11 personnes, dont certains des assaillants, ont été tuées la veille dans l'attaque d'une ville du sud-ouest dans l'État d'Oyo par des inconnus armés. Plusieurs bâtiments et des véhicules ont également été incendiés au cours de l'attaque. Par ailleurs, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada ont déploré la suspension de Twitter au Nigeria après la suppression par le réseau social d'un tweet du président Muhammadu Buhari. Il menaçait, je cite, de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria, attribuées par les autorités à des séparatistes. Nous reviendrons sur cette affaire avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, en seconde partie de cette édition. En Libye, 2 agents des forces de l'ordre ont été tués et 5 blessés hier soir dans l'explosion d'une voiture piégée visant un checkpoint dans la ville de Seba, contrôlée par l'ANL du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais on soupçonne des djihadistes. Il intervient en plein processus politique parrainé par l'ONU, qui a permis l'installation en mars d'un gouvernement de transition dirigé par Abdelhamid Dbeiba. Le Maroc va rouvrir ses aéroports et ses ports pour les déplacements internationaux à compter du 15 juin, aussi bien pour ses ressortissants que pour les étrangers. Selon le ministère des Affaires étrangères, tous les voyageurs seront autorisés à entrer dans le pays s'ils ont été vaccinés contre le COVID-19 ou présentent un test de dépistage négatif du coronavirus. En Allemagne, les conservateurs ont remporté haut la main un scrutin régional crucial dans l'ex-RDA et engrangé un succès rassurant pour le chef du parti et prétendant à la succession d'Angela Merkel. Selon les résultats provisoires, la CDU obtient environ 36% des voix contre 22,5% pour l'extrême droite de l'AfD dans ce scrutin de Saxe-Anhalt à l'ouest de Berlin. Et au Pérou, la représentante de la droite populiste Keiko Fujimori est en tête avec 52,9% des voix selon un dépouillement partiel du scrutin présidentiel d'hier face au candidat de la gauche radicale Pedro Castillo. Au Mexique, le parti du président Andrés Manuel López Obrador a perdu sa majorité absolue à la Chambre basse du Congrès, selon de premiers résultats des législatives de dimanche. Du macabre dans ces élections, 2 têtes humaines ont été découvertes dans des bureaux de vote de Tijuana, ville au cœur des violences liées à la drogue. Tijuana a déjà été le théâtre de découvertes macabres de restes humains. La campagne a été marquée par des violences avec 91 politiciens tués depuis septembre, dont 36 candidats ou pré-candidats. La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée hier au Guatemala avant de se rendre au Mexique, un premier voyage international pour Mme Harris qui affirme vouloir donner de l'espoir à une région d'où viennent la majorité des migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis. Elle avait dû faire auparavant demi-tour et changer d'avion à cause d'un problème technique après le décollage du premier appareil. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. suite de nos informations, au Burkina Faso, un deuil national de 3 jours a débuté samedi en hommage aux victimes de l'attaque menée par des djihadistes présumés dans la nuit de vendredi à samedi contre le village de Solhan qui a fait 160 morts. Michel Joseph fait le point.
160 corps, dont une vingtaine d'enfants, ont été inhumés par les habitants samedi dans 3 fosses communes, selon un élu de la région. Les assaillants ont visé un poste de volontaire supplétif civil de l'armée avant d'attaquer les maisons de Solhan et d'exécuter des habitants. Les villageois ont fui vers Dori et Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Cette zone proche des frontières avec le Mali et le Niger a enregistré de nombreuses attaques djihadistes. Selon le gouvernement, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes. Le président Rochemar Christian Kabore a appelé ses compatriotes à rester unis et soudés contre ces forces obscurantistes. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien au Burkina Faso dans son combat contre la violence extrémiste. L'attaque de Solhan en a suivi une autre vendredi soir contre le village de Tadariat, qui a fait 14 morts. Les 17 et 18 mai, 15 villageois et un soldat avaient été tués lors de 2 assauts dans la même région.
Merci Michel. Nous retrouverons en seconde partie de cette édition notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Au Mali, le colonel Assimi Goïta doit être officiellement investi président de la transition ce lundi. La cérémonie d'investiture est prévue à 10h au Centre international de conférences de Bamako. Les précisions avec Nathalie Barge.
Après le putsch d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, la junte s'était engagée à une période de transition limitée à 18 mois et conduite par des civils. Le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta a fait arrêter le président et le premier ministre et s'est ensuite fait déclarer président de la transition par la Cour constitutionnelle. La nomination de Choguel Kokala Maïga du N5 comme nouveau Premier ministre semble imminente. Il a assuré vendredi que son pays tiendrait ses engagements. La France a suspendu ses opérations avec l'armée malienne après 8 ans de coopération étroite contre les djihadistes. Les militaires qui ont ramené dans le jeu le M5 s'emploient aussi à rassurer les ex-rebelles indépendantistes réunis dans la coordination des mouvements de l'Azawad. Après avoir exprimé des réticences, les dirigeants de la CMA se sont dit prêts à accompagner ce nouveau chapitre de la transition et certains d'entre eux devraient assister à l'investiture.
C'est un groupe rival qui le dit cette fois-ci. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, s'est suicidé lors de combats contre le groupe djihadiste rival de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. ISWAP confirme ces faits dans un enregistrement audio publié 2 semaines après de premières informations faisant état de sa mort. Les détails avec Abdourahman Dia.
Shekau a préféré l'humiliation dans l'au-delà à l'humiliation sur terre. Il s'est donné la mort en déclenchant un explosif, déclare en langue kanouri une voix semblant être celle du chef de l'ISWAP, Abu Moussab al-Barnawi, dans cet enregistrement remis à l'AFP par une source relayant habituellement les messages du groupe. Boko Haram ne s'est pas exprimé sur la mort annoncée de son chef et l'armée nigériane dit enquêter. Dans son enregistrement, ISWAP décrit comment ses troupes, envoyées dans l'enclave de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, ont découvert Shekau assis dans sa maison et ont engagé le combat. Il a battu en retraite et s'est échappé, errant à travers la brousse pendant 5 jours. Néanmoins, les combattants de l'ISWAP ont continué à le chercher et à le traquer jusqu'à ce qu'il soit capable de le localiser, raconte la voix. « Nous sommes tellement heureux », souligne la voix, ajoutant que Shekau est quelqu'un qui s'est rendu coupable d'un terrorisme et d'atrocités inimaginables. L'ISWAP, reconnu par l'État islamique, est né en 2016 d'une scission avec Boko Haram. Après être monté en puissance, il est désormais le groupe djihadiste dominant dans le nord-est du Nigeria.
Le premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou,
accusé d'intimider les soutiens d'un possible gouvernement de coalition cherchant à l'évincer du pouvoir, s'est défendu hier de toute incitation à la violence dans un climat politique tendu qui inquiète jusqu'aux services de sécurité locaux. Les détails avec Nathalie Barge.
Samedi soir, Nadav Argaman, le patron du renseignement intérieur, a mis en garde contre une augmentation des discours incitant à la violence. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait pression sur des députés afin de les convaincre d'abandonner leur appui au projet de gouvernement de coalition mené par son rival Yair Lapid. On ne peut pas dire que quand la critique vient de droite, c'est de l'incitation à la violence. C'est que quand elle vient de gauche, c'est une utilisation justifiée de la liberté d'expression, s'est défendu M. Netanyahou devant son parti, le Likoud, affirmant condamner toute incitation à la violence. Il a qualifié de gouvernement de gauche dangereux la coalition hétéroclite formée par M. Lapid avec deux partis de gauche, deux du centre, trois de droite et la formation arabe islamiste RAM. La commission des affaires sécuritaires du Parlement a annoncé qu'elle se réunira en urgence aujourd'hui à la lumière de l'avertissement inhabituel émis par le chef du Sinn Féin ainsi que dans la perspective d'une marche des drapeaux prévue jeudi à Jérusalem-Est à l'appel de l'extrême droite.
Minuteco, Claire Morin-Gibourg.
En Afrique du Sud, le rooibos, une plante qui sert à faire des infusions, est devenu le premier produit africain bénéficiant d'une appellation d'origine protégée dans l'Union européenne. Une reconnaissance importante qui pourrait servir de modèle à d'autres pays africains pour faire face à la volatilité des marchés agricoles. La valorisation des produits du terroir permet également d'améliorer les revenus des producteurs. En République démocratique du Congo, le groupe Activa, premier assureur panafricain agréé sur le marché congolais depuis 2019, vient de créer une deuxième société, Activa Vie RDC, spécialisée dans les risques liés au décès, à l'épargne et à la capitalisation. Le groupe Activa s'appuie sur un réseau de filiales opérant dans 10 pays. La Banque mondiale a annoncé vendredi suspendre ses opérations financières au Mali à la suite du coup d'État fin mai, le second en moins d'un an. La banque a temporairement mis en pause les décaissements pendant qu'elle suit et évalue de près la situation, a indiqué un porte-parole de l'institution à Bamako.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Élisée Comte-Patine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une, report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 qui aura lieu au Cameroun.
Oui, et c'est bien à la demande de la Confédération africaine de football que le comité local d'organisation a accepté de reporter ce tirage au sort initialement prévu le 25 juin prochain pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Une nouvelle date sera annoncée en temps opportun, peut-on lire sur le site de la CAF.
Pendant ce temps, les sélections africaines sont sur le pont pour la fenêtre FIFA de ce mois de juin, avec des matchs amicaux.
Oui, pour faute de pouvoir déjà entamer les éliminatoires du Mondial 2022, reportés à septembre à cause du mauvais état de nombreux stades sur le continent et de la situation sanitaire. Mais en attendant, les équipes testent leur état de forme. Et pour l'Algérie, apparemment, pas trop d'inquiétude au vu des résultats de ces deux sorties. Après leur nette victoire contre la Mauritanie, les champions d'Afrique en titre ont enchaîné hier en venant à bout du Mali 1-0, but de Riyad Mahrez. Ils ont l'occasion de prolonger leur invincibilité après 26 matchs samedi prochain face au Burkina Faso.
De son côté, le Mali jouera la RDC et Hector Cooper qui ont aussi raté leur première sortie face à la Tunisie.
Score 1-0, but de Naïm Sliti un peu avant la pause. L'Argentin va avoir du travail apparemment pour relancer les Léopards, déjà pas qualifiés pour la prochaine CAN. Le Togo, qui ne jouera pas aussi la CAN 2022, s'est quand même imposé 2-0 devant la Guinée. Les autres résultats, la Côte d'Ivoire gagne à domicile 2-1 face au Burkina Faso et le Sénégal l'emporte à Thiès sur la Zambie 3-1. Les Lions jouent demain toujours à Thiès, cette fois contre le Cap-Vert.
Les Zambiens, eux, seront demain à Cotonou pour affronter le Bénin qui prépare son match qualificatif pour la CAN 2022.
Exactement, Idrissa. Et ce sera au stade Mathieu Kérékou anciennement rénové. Un match qui servira de préparation pour la rencontre décisive contre la Sierra Leone pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la CAN qui aura lieu au Cameroun en 2022. Un rendez-vous dont on ne connaît pas la date précise ni le lieu pour le moment. Il était prévu en mars, mais avait été finalement annulé suite au supposé test positif de 5 joueurs béninois au coronavirus.
Et en attendant cette rencontre décisive, la Fédération Sierra Leonaise de football a un nouveau président.
Et il s'agit de Thomas Dedi Brima qui a été élu après avoir battu son concurrent Kofi Din Niako 31 voix contre 26. C'était à l'issue d'une assemblée générale élective au siège de l'instance à Freetown. Il faut noter que la présidente sortante Aïcha Joassen ne s'est pas représentée. Elle a préféré se consacrer à ses nouvelles fonctions à la FIFA. Et puis, du cyclisme pour terminer, après 2015, le coureur camerounais Clovis Kamzong Abesolo a remporté hier dimanche le 17e tour du Cameroun, achevé dans les rues de Yaoundé. Il a devancé au classement général le Bulgare Yordan Andreev. Le Burkinabé Souleymane Kone est classé 4e.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sekia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays. Solan, dans le Sahel, a été la cible d'une attaque d'envergure tôt samedi. Les populations sont désemparées. Comme toujours, les autorités tentent de rassurer. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le gouvernement, lui, jusque-là, ne parlait que de 132 morts.
C'est un homme très, très meurtrier qui vous parle actuellement.
Le colonel major Salfo Kabore, gouverneur du Sahel.
Nous avons perdu 132 compatriotes à Solan. Mais nous avons aussi perdu 13 dans la commune de Loudalan. Nous avons perdu 2 ailleurs. Et certainement d'autres dont nous ne sommes même pas informés. Vous avez vu des blessés, dont une fillette qui a moins de 5 ans. Vous avez vu des hommes, vous avez vu des femmes qui ont reçu des balles dans le dos, en face. Ce genre de situation-là, aucune âme humaine, aucun être humain ne peut regarder ça et rentrer chez soi et peut dormir tranquille.
À Ouagadougou, les populations sont affligées et désemparées.
Nous, on n'est pas contents. Ça nous décourage beaucoup. Les bandits viennent pour attaquer jusqu'à tuer, voilà, des 100 personnes. En tout cas, c'est décourageable. C'est décourageable. Nuit jusqu'à matin, rien n'a signalé. En tout cas, c'est pas bon.
Nous encourageons les populations. Nous encourageons l'État à redoubler d'efforts pour le maintien de la sécurité et pour aussi sauvegarder la cohésion sociale. Nous sommes derrière le président parce qu'il lutte vaillamment pour restaurer la sécurité.
J'étais déçu et concerné. Je suis resté dans un désarroi total. Nous ne comprenons plus rien de ce qui se passe dans notre pays.
Le gouvernement avait d'abord parlé d'une centaine de morts pour après préciser 132 morts. Le gouverneur, lui, évoque 147 comme dernier bilan. Mais des sources locales parlent d'au moins 160 morts. La fiabilité des informations, tout cela est difficile pour les populations, selon Serge Houlon, directeur de publication du journal L'Événement.
C'est vraiment la première fois, ça veut dire que femmes, enfants, hommes, on a massacré en fait les gens. Encore une situation assez confuse.
Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer. Ousseni Tamboura est le porte-parole du gouvernement.
La lutte contre le terrorisme est une lutte d'abord de longue haleine. C'est une lutte aussi qui consiste à réarmer, à recapaciter nos forces de défense et de sécurité, mais en faire en sorte aussi que toutes les autres solutions qui ne sont pas forcément militaires puissent aussi se mettre en branle en même temps. Mais le rôle de la population me paraît être déterminant dans la victoire contre le terrorisme.
C'est une attaque jamais enregistrée de toute l'histoire du pays. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont témoigné leur compassion au Burkina qui a décrété un deuil national de 72 heures depuis samedi. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu à Ouagadougou cette semaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, les autorités sanitaires ont lancé ce week-end la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est un don du gouvernement chinois de 200 000 doses du vaccin Sinopharm pour 100 000 personnes. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Sont concernés par la première dose de cette vaccination les pèlerins, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes ayant des facteurs de comorbidité, le personnel soignant et les militaires. Pour rassurer les populations cibles sur la fiabilité et le caractère inoffensif du vaccin, le ministre de la Santé publique Abdoulaye Sabre Fadoul est le premier Tchadien à être vacciné.
Nos compatriotes doivent comprendre que c'est un moyen de se mettre à l'abri contre la COVID-19 qui va encore persister pendant des mois, voire des années. C'est de venir se faire vacciner. C'est gratuit, ça ne fait pas mal, ça ne comporte aucun risque. Et très franchement, je suis ravi de voir dans la salle d'attente autant de monde qui sont en train de se faire enregistrer afin de venir prendre leur vaccin. Donc vous, journalistes, aidez-nous à porter la vérité sur les vaccins et sur la vaccination pour que tous nos compatriotes sur l'ensemble des territoires nationaux soient informés que le vaccin il est à la fois sûr et efficace.
Quelques patients qui ont été vaccinés peu après le ministre en charge de la Santé publique ont un avis partagé sur les effets secondaires du vaccin.
Effectivement, je viens d'être vacciné. C'est un vaccin déjà qui ne fait pas mal. Et il n'y a pas d'effet secondaire à ce stage. Personnellement, chez moi, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Je me sens très bien. Je suis là debout et tout joyeux. Il n'y a pas de problème pour le moment.
Je vais voyager. Sans vaccination, je ne peux pas voyager. C'est obligatoire.
Il n'y a pas quelque chose de grave à vous voir. Je vais m'identifier mes voisines, mes voisins.
Docteur Omar Ouali, médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de N'Djamena, lance un appel à tout le personnel soignant de se faire vacciner avant les autres à cause de leur vulnérabilité face à cette pandémie.
La COVID-19 avait fait le ravage ici dans notre pays, donc je demande à tous mes condisciples de se faire vacciner pour éradiquer cette maladie dans notre territoire. Ça, c'est pour une durée indéterminée. Ce vaccin est utile. Tout le monde. Le coronavirus ne connaît ni religion, ni ethnie.
Les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette vaccination. Garsatam, Valérie, infirmière diplômée d'État au centre hospitalier universitaire de N'Djamena, donne les raisons.
Les enfants, ils ont un calendrier vaccinal qui est établi par le programme élargi de vaccination. De même, par exemple, que les femmes enceintes ont déjà un calendrier qui prennent déjà des vaccins 1, vaccins 2, c'est-à-dire qu'elles sont déjà protégées. Donc, ça fait une réaction par rapport à fœtus ou à l'embryon ou elle porte. Donc, raison pour laquelle ces deux groupes sont écartés.
Depuis le 19 mars 2020, date à laquelle le coronavirus a fait son apparition au Tchad, les autorités sanitaires affirment avoir enregistré plus de 5000 cas confirmés avec 174 décès. André Kodumatingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Cameroun, près de 400 000 ménages reçoivent des transferts monétaires octroyés par le gouvernement dans le cadre du projet dénommé « filets sociaux ». De l'argent qui leur permet de lutter contre l'extrême pauvreté. Ces derniers mois, le nombre de familles en peine s'est accru notamment à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise anglophone. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Avec la survenue de la pandémie du coronavirus, les inégalités et la vulnérabilité de certaines populations sont de plus en plus criardes au Cameroun. Ce qui a augmenté le nombre des ménages bénéficiaires du projet filet sociaux. Marcelin Dio, coordonnateur national du dit projet.
Le gouvernement a donc mis dans le cadre du Fonds de solidarité nationale à la distribution du projet filet sociaux un montant de 16 milliards de francs CFA. Ce montant a permis au projet de sélectionner 80 000 bénéficiaires. Et dans un premier temps, le gouvernement a demandé que nous choisissions ces bénéficiaires dans les chefs de région. Le bénéficiaire donc choisi fait 3 mois dans le programme et le bénéficiaire a 180 pendant ces 3 mois.
Par ces financements, les familles résistent aux chocs économiques et sécuritaires. Certains ménages bénéficiaires sont issus de Yaoundé, dans la région du centre, ou encore des localités telles que Fundop et Ndop, dans la région du nord-ouest, en zone anglophone, comme ces dames.
Cette lunette teach me how to keep fowls.
Les sujets sociaux m'ont appris à élever la volaille. Et grâce à ces volailles, j'ai pu faire vivre ma famille.
1500 ménages de la commune de Foundop et 500 de la commune de Ndop, dans la région du Nord-Ouest, ont été les zones pilotes de ce projet. À Yaoundé, Aïssatou Ousmanou, 36 ans, mère de 7 enfants, est commerçante au quartier de Briqueterie, l'un des plus peuplés de la capitale. Elle est une bénéficiaire du projet Filets Sociaux.
La vie a changé. Des petits 100 francs, 200, 300, 500, ça entre par jour. Tu n'as pas de problème.
Aubertine Ekingé, quant à elle, a 8 enfants à sa charge. À 59 ans, elle dit être sortie de la galère grâce à l'aide gouvernementale.
Je faisais seulement le bâton et les beignets. Avec le projet, ça m'a augmenté que je fais le poisson. Je paye aussi les sauts du maïs.
Ce sont les enquêtes sur les conditions de vie des ménages organisés par l'Institut national de la statistique qui permettent d'identifier les Camerounais qui sont les plus frappés par la pauvreté chronique et ont besoin d'une intervention urgente du gouvernement. La région de l'extrême nord, confrontée aux attaques de la secte Boko Haram, celle du nord, de la Damawa, de l'est et les deux régions anglophones, épicentres d'un conflit entre les séparatistes et l'armée régulière, sont, d'après les dernières enquêtes, les plus grands bénéficiaires du projet Filets Sociaux. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'accès à Twitter a été coupé depuis ce week-end. Le gouvernement fédéral interdit les activités du réseau social dans tout le pays après la suppression d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari par le média social. Dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja, il revient sur les réactions des Nigérians qui critiquent la décision des autorités fédérales.
Tout a commencé mardi dernier lorsque Twitter a supprimé une remarque sur le compte du président nigérian évoquant dans un avertissement les récents troubles dans le sud-est du pays. Un acte qui a provoqué la colère des autorités fédérales, accusant le géant des médias sociaux de mener des activités suspectes au Nigeria. Lai Mohamed est le ministre nigérian de l'information et de la culture.
La mission de Twitter au Nigeria est suspecte. Est-ce que Twitter a une fois supprimé un tweet violent de Nnamdi Kanu? Non, il ne l'a jamais fait. Au moment où les gens brûlaient les postes de police et tuaient des agents de police pendant les manifestations contre les brutalités policières au Nigeria, pour Twitter, il s'agissait d'un droit de manifester.
La suspension est intervenue deux jours après et depuis, les opérateurs de télécommunications au Nigeria ont restreint l'accès à Twitter. La nouvelle a provoqué une réaction immédiate des utilisateurs des médias sociaux ainsi que des militants des droits humains. Fait Abba n'apprécie pas la décision du gouvernement et n'arrive plus à se connecter sur son compte Twitter.
C'est une violation des droits des gens. J'étais vraiment déçue le matin quand j'ai essayé de me connecter sur mon compte Twitter et je ne pouvais pas accéder. C'est vraiment triste, très triste. Je suis déçue.
Comme elle, plusieurs millions d'autres utilisateurs de la plateforme sont mécontents. De nombreux Nigériens se sont tournés vers les autres médias sociaux pour critiquer l'annonce du gouvernement.
Beaucoup de personnes expriment leurs sentiments sur Twitter. Beaucoup disent sur ce réseau social tout ce qu'ils vivent. Ils aiment partager des informations avec les autres sur ce qui se passe sur Twitter parce que tout le monde n'a pas les moyens de parler avec les autres face à face.
I feel so bad, actually, because what government...
Je me sens vraiment mal parce que le gouvernement doit prendre en considération l'intérêt des gens, pas seulement son propre intérêt.
Come do what they want or what their interest is.
Le procureur général du Nigeria a ordonné la poursuite immédiate de tous ceux qui vont tenter de violer l'interdiction de Twitter par le gouvernement fédéral. Mais le ministre nigérien de la Justice n'a pas donné plus de détails sur ces poursuites et qui serait visé. Pour ces blogueurs nigériens Obojuwa Jafet, les Nigériens continuent toujours à tweeter.
Allez sur Twitter, les Nigériens sont en train de tweeter à partir du Nigeria. Ce qui est clair est que ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre que le monde a changé. Et dans le monde digital, vous ne pouvez pas réellement bloquer les gens.
En 2019, le Nigeria avait annoncé la mise en place de mesures plus strictes pour réguler les médias et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Des mesures qui avaient aussi été perçues par la société civile comme une restriction de la liberté d'expression. Gilbert Samba Abuja, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.